Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Merci d'être venus à cette conférence qui est une première à Panamini. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas la Pupanvol, petite université populaire en Volvestre, quelques informations. Nous avons, enfin, la Pupanvol est une association loi 1901, qui est une petite fille de la Pupal. Pupal qui est beaucoup plus ancienne, qui est sise en Ariège, Arislaise. La Pupanvol n'a que ou a 5 ans.
4 ans et demi.
Comment ?
4 ans et demi.
Que 4 ans et demi, elle va avoir 5 ans. À ce sujet, il va y avoir une fête, en fin d'année, une fête des 5 ans de la Pupanvol. Vous en serez avisé, vous en serez prévenu. Association qui a pour mission de faire des conférences sur des sujets divers, le plus divers possible. Et ces conférences se passent en trois parties. Première partie, l'intervention du conférencier, qui dure à peu près trois quarts d'heure. Deuxième partie, une vingtaine de minutes, où les gens posent des questions. Et troisième partie, qui est comme la troisième mi-temps rugby, je connais quand même quelque chose en rugby, qui se passe autour d'un repas partagé où tout le monde est convié. Les prochaines conférences de la Pupanvol, je vais vous les donner, celles de fin avril, mai et juin. Le 25 avril, ça se passera à Carbonne, et la conférence portera sur le regard de la société sur le handicap. Elle sera donnée par le docteur Dominique Ornistragne, qui est anesthésiste et qui s'occupe de sport, de compétition internationale du handicap, des handicapés. La conférence suivante aura lieu le 23 mai. Elle se passera à Vieux-Belvestre. Elle portera sur les femmes savantes et elle sera faite par Dominique Audéron.
C'est l'inverse.
Bon, d'accord. Alors, il y a une inversion que j'avais oubliée. Effectivement, celle du 23 mai portera sur le roman du Grenier de Toulouse, qui est un groupe de théâtre qui est très connu et qui sera faite par Stéphane Vallée. Et le 27 juin, ce sera la conférence de Dominique Audéron sur les femmes savantes. Ce soir, nous accueillons M. Olivier Van der Rey, qui est professeur, enseignant-chercheur à l'Université Paul Sabatier, Toulouse 3. Il est directeur adjoint de l'unité mixte de recherche du CNRS, département Géo, Sciences, Environnement, Toulouse. Alors, il va nous parler de la formation des montagnes. Formation des montagnes, nous savons tous qu'au retour de son 10e travail, Héraclès est passé par ici. Et il a rencontré au royaume des Bécrides, où régnait le roi Béryx, il rencontre Pyrène. Et il faute avec Pyrène. Et il la plaque. Mais Pyrène était enceinte. Et elle avait honte et elle avait peur du courroux de son père. Elle est allée donc dans la forêt, où elle fut tuée et mangée par des ours et des loups. Héraclès fut fou de douleur. Et pour essayer de se faire pardonner, il lui éleva un tombeau. Et ce tombeau, c'est les Pyrénées. Je ne sais pas si M. Olivier Van der Rey va parler de cette histoire, une réalité, c'est comme ça que se sont formées les Pyrénées, tout le monde le sait. Mais je pense qu'il va nous proposer d'autres solutions. Je lui laisse la parole. Merci.
Donc, merci
merci pour cette introduction. Effectivement, parfait. On va essayer d'aborder plusieurs questions dans cette conférence intitulée « Des montagnes et des hommes, évolution des idées sur la dynamique terrestre ». En fait, je voudrais aussi évoquer trois parties, trois thèmes. D'abord, le chercheur et la société. Je pense que c'est aussi l'occasion ici, aujourd'hui, d'évoquer ce genre de questions, la place du chercheur et de la science dans la société. Et puis, effectivement, l'évolution du questionnement de l'homme, de l'humanité, depuis l'approche mythologique jusqu'à l'approche scientifique. Donc, depuis Héraclès, Pyrène, jusqu'à une approche un petit peu plus basée sur des observations et des raisonnements. Et puis enfin, je traiterai rapidement de l'évolution des idées sur la Terre, la dynamique terrestre. Alors je vous encourage, pour peut-être casser un petit peu ce schéma en trois parties, je vous encourage quand même à interagir au cours de la conférence. Je ferai en sorte de susciter des questions et j'espère que vous m'aiderez à la leçon. Donc le but, c'est un petit peu de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette planète sur laquelle nous avons les pieds. Mais on va commencer par le chercheur et la société. Et donc, je vais commencer par vous poser une question. Quelle image avez-vous, ou quelle image on a du scientifique? Quelle image vous vient en tête quand je vous dis un scientifique?
Un poète.
Un poète.
De formation ou de...
Peu importe, je dis scientifique. Est-ce qu'il y a des images qui...
Curiosité.
Curiosité.
Les livres.
Libre, ouais, c'est ça.
La rigueur. Libre,
poète, rigueur. Donc on a effectivement des extraits. Hein. Alors bon, je vous ai proposé. Je fais le même exercice. Hein, puis moi, ce à quoi j'ai pensé, c'est Einstein. Alors effectivement, et derrière ça, il y a cette notion de liberté. Parce que bon, là, on peut retenir de cette image, le scientifique serait vieux et fou. Mais Einstein, il n'avait pas du tout ça en tête quand il a fait cette boutade. Et en fait, il répondait, oui, déconnecté du reste de la société. C'est un petit peu l'image qu'on essaie aussi de nous donner. Mais Einstein n'avait pas du tout cette idée. Et voilà ce qu'il a dit au photographe, journaliste qui a pris cette photo. Vous aimerez ce geste parce qu'il est destiné à toute l'humanité. Un civil peut se permettre de faire ce qu'aucun diplomate n'oserait. Votre auditeur loyal et reconnaissant. En fait, c'était un geste de liberté. C'est dire, voilà, moi j'ai une liberté de penser, et vous, le journaliste, c'est peut-être pas forcément les décideurs, n'ont peut-être pas forcément cette liberté de penser. Donc c'est surtout pas vieux et fou, ni déconnecté de la société. Autre image auquel j'ai pu penser, en fait, ces images sont sans doute générationnelles. Hein. Il y a une partie de ces images qu'on a en tête qui vont dépendre des générations auxquelles on appartient. Moi j'ai pensé aussi à Frankenstein. Qui serait une image du scientifique qui vivrait retiré au fond d'une cave, et ça donnerait des activités solitaires. Et puis surtout, ne maîtriserait pas totalement ce qu'il fait, le fameux Frankenstein qui échappe des mains de son créateur. Alors une image un petit peu plus romantique de l'enseignant-chercheur.
Ah,
Indiana Jones. Bon, j'ai mis ma veste qui va avec le côté enseignant à la ville et puis le côté chercheur à la campagne. Voilà, ça, c'est un peu l'image qu'on aimerait, de façon assez poétique, donner aux étudiants, voire aux étudiantes. Alors, quelle est la réalité des choses? Réalité des choses, en France, le scientifique, c'est plutôt un homme de 25 à 65 ans, donc 25 ans, c'est parce qu'il faut avoir fait une thèse. Et là, vous avez la pyramide des âges des maîtres de conférence, qui est le premier niveau d'enseignant-chercheur à l'université, et puis les professeurs. Et vous voyez qu'il y a un peu de déséquilibre entre les hommes et les femmes. Alors, qui est en train de qui est très marqué pour les professeurs. Professeurs, c'est en général autour de 40 ans qu'on peut passer du statut de professeur. Mais par contre, il est un peu moins marqué maintenant pour les maîtres de conférences. On a quasiment autant de femmes que d'hommes. Et puis, quand on regarde les populations étudiantes, c'est quasiment à l'équilibre. Donc, plutôt un homme, mais ça s'équilibre, qui travaille à l'université, mais on en trouve aussi, et ça on l'oublie, on en trouve aussi beaucoup dans les entreprises. Là ici vous voyez les chiffres, 0 à 500 pour les universités, là l'échelle c'est on multiplie par 10.
Donc les chercheurs et la recherche scientifique se fait dans les entreprises privées.
Donc là, on descend un petit peu notre tour d'ivoire. Hein, on s'ancre dans la société. Et si je vous montre cette... Allez-y.
Non, c'est pas forcé. Par exemple, l'implantation du spatial à Toulouse, c'est pas traduit par le fait que les gens baignent dans la société de Toulouse.
Ah, vous pensez pas?
Ah bon, j'en suis sûr.
Bah, en tout cas, le chercheur est dans les entreprises du spatial. Le chercheur et le scientifique, il contribue au développement
des services spatiaux. Mais il vit beaucoup en cercle fermé.
D'accord, alors ça c'est d'accord. Ça c'est
dans leur boulot et pas tellement à la société autour.
D'accord. Ça c'est peut-être effectivement la relation à ce moment-là du chercheur et du scientifique. Donc, peut-être que vous êtes entouré de chercheurs et de scientifiques, mais vous ne le savez pas. Moi, quand j'ai annoncé là, que je faisais une conférence ici, moi j'habite à Carbonne. Bon, mes collègues, par exemple, du rugby, avec qui je devrais être aujourd'hui, parce que je m'occupe des enfants du rugby, bon, ils disent « Ah bon, tu es professeur à l'université ?» Ben, ils ne savaient pas. Ils ne s'en doutaient pas. Mais bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc, si on ouvre maintenant sur le scientifique dans le monde, alors ça, c'est les effectifs de chercheurs en 2010, en milliers d'équivalents temps plein. Et vous voyez qu'ici, donc, c'est plusieurs milliers de milliers, donc des centaines de milliers, dans les millions. Et vous voyez, les principaux pays, c'est les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie, donc des grands pays, mais surtout des pays occidentaux, hein, avec une économie qui est basée sur les ressources minérales et l'utilisation des ressources, la société de consommation. Alors si maintenant on traduit ça en... On normalise, pour éviter l'effet grand pays, on normalise en effectif de chercheurs équivalent temps plein pour 1000 actifs. Les pays qui ressortent, c'est Taïwan, Corée du Sud, Japon, Suède, États-Unis, la France. Vous voyez, donc des pays où on a entre 1 et 10 personnes pour 1000 actifs qui sont des scientifiques ou voilà, des chercheurs essentiellement dans le secteur privé. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer de ces chiffres? Ben finalement, le chercheur dans le monde scientifique, dans le monde, il est plutôt dans les pays tournés vers la technologie de pointe, et donc vers le développement technologique. Alors, certes, on peut se poser la question de quelles sont les relations de ces chercheurs, ces scientifiques avec la population, mais quelque part, on vit dans un monde, dans une société, qui s'appuie sur ces travaux. Tout ce qui nous entoure ici est extrait des ressources du sol et du sous-sol, et a été transformé par la technologie. Alors, une autre manière de dire un petit peu la même chose, ici, c'est l'effectif de chercheurs pour 1000 actifs. Et ici, on regarde la dépense intérieure des différents pays en recherche et développement. Et donc là aussi, on voit qu'il y a une corrélation entre le nombre de chercheurs et les crédits qui sont dédiés à cette recherche. Et on voit tout en haut ici, ben, Corée du Sud, Japon, Suède, États-Unis, Taïwan. Taïwan est même au-dessus en termes de chercheurs. Donc on a ici une image qui finalement ancre complètement le chercheur dans la société et le scientifique dans la société. C'est-à-dire qu'il contribue à l'activité des pays industrialisés. Si maintenant on introduit la notion ici de formation, la formation supérieure, alors quoi qu'on nous dise, formation supérieure, ici, mise au regard du taux de chômage, on voit que sans diplôme, alors ça c'est en France, c'est les chiffres de l'INSEE 2013, sans diplôme, bah, les gens qui sortent, là je ne parle pas de diplôme de Bac plus 5, Master ou Bac plus 8, doctorat, hein, c'est Bac plus 2, mais la différence entre quelqu'un qui sort de notre système de formation sans diplôme, va être beaucoup plus enclin à être au chômage que quelqu'un qui sort avec un bac plus 2. Donc c'est un investissement, hein, la formation supérieure et la recherche, et c'est un investissement qui est payant. Mais en perte de vitesse. Ici j'ai mis le nombre d'enseignants. Alors c'est total enseignant
ici les enseignants-chercheurs qui sont dans les universités, donc ça c'est total, les enseignants comprenant l'ensemble de ceux qui sont dans l'enseignement. Et puis, la part des étudiants, on sait qu'il y a eu une augmentation de la démographie depuis les années 2000, après un léger creux, et le nombre d'étudiants est en train d'augmenter de façon exponentielle dans les universités. En plus, on a eu tendance à encourager les jeunes à suivre des études supérieures avec des pourcentages de réussite au bac qui ont augmenté. Et dans le même temps, ben voilà ce qui se passe. Voilà, les enseignants-chercheurs, on est à la limite du renouvellement des gens qui partent à la retraite. Si on prenait la même courbe, on regardait, ben on est en plein dans les années où on n'a pas remplacé finalement un départ à la retraite de fonctionnaires sur deux. Et donc on a ce qui se passe aujourd'hui, un embouteillage à l'entrée des universités, de moins en moins d'enseignants pour enseigner à plus en plus d'étudiants. Mais il ne faut pas faire des maths pour comprendre qu'à un moment donné, ça va poser problème.
Vous ne croyez pas que la conclusion serait un peu moins pessimiste si vous teniez compte de la recherche dans l'industrie? Parce que toutes les boîtes industrielles, surtout les grosses, font énormément de recherches. D'ailleurs, il y en a maintenant, elles ont un crédit d'impôt.
C'est ça, oui. Non,
ils ne sont pas là-dedans.
Ils ne sont pas dans la formation, effectivement. Ils ne sont pas dans la formation. Mais pour.
C'est un débouché pour les étudiants.
C'est un débouché pour les étudiants.
C'est pour ça que. Attention, là. Ça donne un peu une impression pessimiste, quand même.
Alors, c'est une impression pessimiste par rapport à la formation, pas par rapport à l'emploi.
Si je comprends bien votre.
Si, parce que vous aviez l'air de dire, il n'y a pas plus en plus de chercheurs, donc il n'y a pas de place pour les étudiants.
Non. En fait, non. Les étudiants, ils sont dans l'industrie. Non, le message ici, c'est que là, si c'est les enseignants-chercheurs, ce n'est pas les chercheurs, c'est les enseignants-chercheurs dans les universités, donc qui voient leur nombre stagner maintenant, alors que le nombre d'étudiants augmente. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème ne va pas émerger avant, en amont. Du placement dans le monde du travail, dans l'emploi, il émerge, il a lieu le problème au moment de la formation. C'est-à-dire qu'on a autant, voire un petit peu moins, dans les années qui suivent, maintenant, on a une diminution du nombre de postes. On a moins d'enseignants pour de plus en plus d'étudiants. Donc la formation, mécaniquement, se détériore.
Oui.
Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il y a de moins en moins d'embauches.
Voilà.
Ça c'était par rapport. Oui. Oui, ça c'était le graphe ici, l'embauche et le niveau de formation. Et donc le message sur cette première partie, sur la position du chercheur et du scientifique dans la société, et puis la formation, je la laisse à Lincoln, qui disait, si vous pensez que l'éducation ça coûte cher, essayez l'ignorance. Bon, deuxième thème que je voulais aborder, quelle est la motivation du scientifique? On a un petit peu déjà abordé ça en prélude. Et donc, finalement, le scientifique, c'est l'homme. C'est pas un scientifique. C'est ce que j'essaie de vous transmettre comme message. C'est un homme comme les autres qui a eu un parcours un peu particulier, qui est embauché dans un endroit un petit peu particulier. Et donc, qu'est-ce qui nous motive, nous, en tant qu'être humain?
Curiosité, tout à
la curiosité, effectivement.
Voilà pourquoi.
Pourquoi? Et bon, là, c'est même au-delà, c'est presque l'existentiel. Et donc là, le lien avec, effectivement, les questions.
Alors, j'ai changé cette question de pourquoi, vous allez voir pourquoi, de quoi est fait le monde qui nous entoure, comment il fonctionne, comment s'est-il formé, comment évolue-t-il. Là, on rentre dans le domaine du questionnement scientifique. Pourquoi, finalement, ça, c'est plus une question qui appartient à chacun, qui est le sens de la vie. D'où le lien avec le petit prince, qui est le questionnement de l'homme par rapport au monde qui l'entoure.
Vous ne trouvez pas qu'il faudrait mettre science fondamentale?
Allez, allez-y.
Attends.
Par rapport à appliquer?
Par rapport à science appliquée.
Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un temps. L'évolution, en tout cas, de la recherche telle que je la vis, on a plutôt une tendance à lisser ces distinctions. On ne fait finalement plus tellement la distinction, parce que, pour la bonne et simple raison, justement, crédit impôt recherche, on a des choses comme ça. On a de plus en plus du financement qui vient de collaborations publiques-privées. Et finalement, des gens qui, et comme je l'ai montré dans les premières diapos, beaucoup de gens qui font de la recherche dans les compagnies privées, où les intérêts des investisseurs, c'est d'avoir des applications. Mais ça n'empêche pas aux chercheurs de se poser des questions fondamentales. Et en fait, les deux sont vraiment étroitement liés. Donc moi, j'ai vraiment une impression de cette évolution.
Dans l'industrie, il y a quand même une préoccupation d'utilisation rapide de ces
questions. Exactement. Mais celui qui pense que... qu'en faisant uniquement de l'application, il va s'en sortir sur le long terme, il se trompe.
Ouais. Si je peux intervenir, c'est pareil. À mon avis, c'est un débat qui n'existe plus. Honnêtement, je crois que c'est... Parce qu'il y a un passage de l'un à l'autre...
Pas du point de vue du chercheur, hein, du point de vue de l'économiste ou de...
Ah non, je parle du point de vue du chercheur.
Je crois que ce débat...
Voilà, c'est ça. On ne peut pas faire de théorie si on n'a pas l'application. Et l'application sans la théorie, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une dialectique entre les deux.
C'est de plus en plus.
Oui, à l'heure actuelle, c'est ça.
Non, c'est effectivement, je dirais que même celui qui fait de la recherche, qui pense le plus loin des préoccupations matérielles, d'application, finalement, va trouver des applications dans ce qu'il fait. Moi, je prends juste un exemple. Je vois des collègues ici qui... dans le laboratoire, qui vont étudier des petits fossiles qui ont vécu dans des mers de l'ordovicien il y a 480 millions d'années. Et finalement, on se rend compte que ces fossiles permettent de dater les roches de façon très précise et d'identifier des réservoirs pétroliers. Mm-hmm. Bah, une fois que le lien a été fait, la personne qui étudiait les fossiles pour comprendre l'adaptation de la vie à tel ou tel environnement, elle ne se posait pas la question du pétrole. Par contre, le jour où il y a un conflit que ça pouvait faire le lien avec la ressource pétrolière, bon, ben, c'était assez efficace.
Non, mais je disais ça à la suite des questionnements que vous faisiez.
Oui.
Eh bien, un monsieur qui développe un nouveau type de radar chez Thomson CSF, enfin Thales, il ne se pose pas ce genre de questions.
Mais je ne suis pas sûr.
Non, je ne suis pas dans son boulot.
Peut-être pas dans son boulot.
Il fait ça le soir quand il pense, ou quand il rêve.
Mais au départ, sa motivation, je pense, peut-être au départ, sa motivation. Bon, après, il y a tous les intérêts. Mais aujourd'hui, je crois que la recherche fondamentale est de moins en moins déconnectée de la recherche appliquée. Et ça, c'est l'autre mode de...
Non, mais ça, c'est vrai. Mais n'empêche que ce n'est pas forcément les mêmes gens qui font les deux.
Ah, maintenant, plus en plus, si.
C'est un débat intéressant.
Oui, mais... Bref.
C'est un débat fondamental.
Non, par exemple, appliqué.
Oui,
c'est un politique qui parle. C'est fondamental parce que si on pousse la réflexion, ça débouche sur le volet de philosophie politique.
La finalité, finalement.
Bien sûr. Quels sont les objectifs? La recherche appliquée, c'est la recherche qui est au service du monde où nous vivons. Et puis, une fois employé les mots qui conviennent, le monde capitaliste. La recherche fondamentale, c'est la recherche de Galilée. C'est la recherche, si j'ai appris, j'aimerais parler de Bruno Giordano Bruno, qui était un contemporain de Galilée, qui a eu de sacrés problèmes avec la société. C'est le début, votre introduction, c'était quel rapport avec le scientifique et la société. Et il serait intéressant, justement, peut-être de revenir sur cette époque où la science a émergé et avec les difficultés telles que Giordano Bruno il y a laissé sa tête.
Oui, tout à fait.
Si elle est du financement même de la recherche. Dans la mesure où vous l'avez montré, 9 sur 10 de la recherche est dans l'entreprise, Et le 1/10, aujourd'hui on le sait, n'importe quel laboratoire, s'il a des brevets, il va arriver à s'autofinancer, à continuer à faire la chercher. Dans la mesure où il n'y aura pas, il aura du mal à décrocher le financement. Donc, c'est pas. C'est quand même très lié au modèle économique qui met en place la recherche, qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de rupture, parce qu'il y a avant tout de la recherche appliquée. Alors bien sûr, après chacun d'entre nous, même le non-chercheur a le droit de voir, je regarde nos gens, tant que ce qu'on lui demande, et s'il veut que son laboratoire soit financé, il faut qu'il ait de l'application.
Alors je vais vous faire une confidence, effectivement. On se pose ce genre de questions, je ne l'avais pas formulé, mais je pense qu'effectivement, c'est ça que ça devrait. Et en tant que directeur adjoint, enfin, en tant que chercheur, c'est une boîte de 250 personnes, le laboratoire de 1592, ben, on se pose la question de comment on fait travailler les 250 personnes avec des crédits récurrents, c'est-à-dire ce qui nous est attribué de façon régulière par l'État, qui sont devenus peau de chagrin. C'est-à-dire qu'on a des fois allumé la lumière dans les bureaux. Mais on a quand même tout le monde qui est payé avec des salaires. Donc l'étape suivante, ça va être, et on le voit bien arriver, ça va être en terminer avec le statut de fonctionnaire. En nous, on met en place des mécanismes de régulation qui sont, on ponctionne 10%, sans doute prochainement 20% sur tous les contrats qui sont établis, parce qu'on a envie de faire la recherche pour arriver. On a envie de faire la recherche que, effectivement, nous impose Airbus ou Areva ou Total. Pas parce qu'on n'aime pas faire de la recherche appliquée, mais parce qu'on a conscience que pour les recherches appliquées de demain, il faut faire la recherche fondamentale aujourd'hui.
Mais les chiffres que vous avez montrent que l'étudiant, il a tout intérêt à ne pas se poser cette question, parce qu'effectivement, on peut dire, pour être optimiste, qu'il aura du boulot dans l'industrie, mais il n'en aura plus à l'université, ou tellement peu, et surtout pas pour faire de la recherche. De plus en plus, il
n'en aura pas. Bon, on se bat quand même, on va essayer de faire en sorte que ce soit. Mais effectivement, c'est une inquiétude. Donc, toujours est-il qu'au commencement de ces questionnements, alors mon commencement, c'est le questionnement sur le monde et l'humanité, c'est la philosophie grecque. Et je pense que le fait que ça ait émergé en Grèce, c'est pas un hasard. Qu'est-ce qui stimule l'esprit scientifique ? C'est les catastrophes naturelles. C'est la question, qu'est-ce qui contrôle les phénomènes naturels, les orages, les tempêtes, les inondations, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre. Et les Grecs sont dans un site géologiquement très actif, avec des montagnes qui se forment, des océans qui s'effondrent, du volcanisme, des tremblements de terre. C'est ma théorie à 2 euros. Qui est qu'effectivement, si la philosophie grecque a émergé à cet endroit-là, c'est parce qu'il devait y avoir une stimulation particulière. Donc, comme monsieur qui était stimulé par les montagnes en Ariège et la formation des lacs. Et après seulement vient, effectivement, l'utilisation. Comment utiliser les ressources naturelles, de la pierre taillée à l'atome d'uranium. Je pense qu'au fond de nous, notre premier questionnement, il est par rapport au monde qui nous entoure. Après, on essaie d'en faire le mieux qu'on peut pour essayer de vivre le plus confortablement possible. Et face à ça, il y a plusieurs démarches. J'ai une source inépuisable, là, les Shadok. Avec la première approche qui a été l'approche mythologique, la croyance. Processus mental expérimenté par une personne qui adhère dogmatiquement à une thèse ou des hypothèses, de façon qu'elle les considère comme vérité absolue, ou une assertion irréfutable, et ce indépendamment des preuves, notamment empiriques, qui en attestent ou contestent la crédibilité. En ce sens, elle s'oppose à la notion d'esprit critique. Voilà, la première démarche, c'est essayer de bâtir un socle de croyances qui nous rassure par rapport au monde qui nous entoure. Et devint Shadok, il s'occupait plus spécialement d'astrologie, qui disait que c'était lui qui était chargé tous les matins de faire le soleil se lever. Comme ça lui laissait quand même pas mal de temps libre, entre deux, il était plombier. Il faisait de l'application. Et donc le mythe, c'est pas issu de rien. Le mythe s'appuie sur des observations, mais c'est un récit symbolique porté par une tradition orale qui propose une explication pour certains aspects fondamentaux du monde, en particulier pour la création du monde et les phénomènes naturels. Et donc on s'appuie quand même sur des observations. Après, il y a croyance et empirisme. Pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre ?
La loi de l'emmerdement maximum. Et faire la différence entre croyance et empirisme, et puis ensuite démarche scientifique, c'est pas si clair que ça, de mon point de vue. Hein.
Et pour moi, qui suis des chercheurs plutôt en sciences naturelles, alors on pourrait faire cette distinction-là aussi, entre sciences dures et sciences molles, entre sciences plus quantitatives et sciences naturelles. Et surtout, effectivement, les sciences naturelles, c'est pas toujours facile de faire la différence entre la croyance et le savoir empirique. Et je dirais que là, c'est plutôt les étudiants qui me questionnent par rapport à ça. C'est de plus en plus des questionnements qui sont, oui, bah, vous nous dites que la Terre a 4,5 milliards d'années, mais nous, de nos croyances, c'est plutôt 6 000 ans. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Et on tombe de plus en plus sur des étudiants qui vont chercher des informations sur Internet et qui tombent sur des sites créationnistes. Et on peut se faire piéger, même avec pas mal de pratiques. Et ça a le goût de la science, ça a l'odeur de la science, et puis en grattant un petit peu, on se rend compte que c'est pas tout à fait là qu'on voulait aller, et on se fait embarquer, et du coup, ça nous questionne sur quelle est notre propre démarche. Vraiment, quel est notre socle, et notre mode de fonctionnement. Et donc, ces interventions-là, donc, que j'apprécie tout particulièrement, auprès d'un public un peu large, avec des questionnements qui sont les mêmes que les miens au point de départ, hein, c'est l'occasion de se poser ces questions-là. Alors j'ai pris ensuite la définition du petit Robert. La science, ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai, on a de nouveau cette notion de vérité. Là. On va revenir sur ce mot-là. Au sens large, l'ensemble des connaissances, l'étude d'une valeur universelle, caractérisée par un objet, une méthode déterminée. Je vais garder fondée sur des relations objectives et vérifiables, je vais garder méthode, relations objectives et vérifiables. Le vrai, ça me gêne. On va revenir un petit peu dessus. Le vrai provisoire. Sinon, on est dans le dogmatique. Et on se rend compte qu'effectivement, quand on voit les avancées de la science, quand on est dedans, on se rend bien compte qu'il y a des... C'est pas grave. Et c'est presque générationnel. Il y a des moments où on se demande s'il ne faut pas attendre que la génération d'avant soit partie pour pouvoir proposer des idées nouvelles. Donc on est dans le cadre plutôt que clairement dans le cadre d'une évolution. Alors, avec heureusement des remises en question, mais qui doivent attendre que le dogme précédent soit parti. Et donc, à la différence des dogmes, qui prétend également dire le vrai, la science est ouverte à la critique. Et les connaissances scientifiques ainsi que les méthodes sont toujours ouvertes à la révision. Ça, je pense que c'est des points importants. Mais c'est les points qui sont les plus compliqués à gérer, parce que c'est pas rassurant. C'est le contraire de rassurant, enfin, pour tout un chacun. Quand on est habitué à pratiquer, finalement, moi je ne suis pas rassuré quand on me dit c'est comme ça. Mais la plupart d'entre nous, si on se questionne dans notre fort intérieur, bon, c'est plus rassurant d'avoir une explication et on n'y touche plus.
Elles sont ouvertes à la révision, mais la révision ne gagne pas forcément.
Effectivement, non, c'est pas simple. Ouais.
Mais ce qui fait que ce n'est pas fait l'idée, c'est qu'il est obligé.
Elle est obligée.
Elle a comme base, comme contrainte, de mettre au risque de la critique sa vérité.
Ça, c'est pour moi.
C'est pas simplement ouvert, parce que ouvert, il y a d'autres modes de pensée qui est ouvert.
D'accord.
Mais qui n'est pas pour autant, qui n'est pas contraint, publication, par exemple, contrainte, ça fait qu'effectivement, vous êtes bien obligé de.
Oui, c'est ouvert à la révision. C'est pas forcément ouvert.
Effectivement, je pense comprendre la nuance.
La vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci.
Ah non, les shadows, c'est...
Ceci n'est pas une vérité.
Ceci.
Donc effectivement, on s'appuie sur une méthode. Hein, donc ça, c'est contraignant. C'est pas ouvert. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la démarche scientifique. Et donc c'est C'est un ensemble de canons qui guide le processus de production des connaissances scientifiques. Et on a des méthodes qu'on va valider par l'expérience et l'observation et confronter la théorie avec la pratique. Donc les méthodes scientifiques et les valeurs scientifiques sont à la fois le produit et les valeurs scientifiques. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait complètement négligé dans la formation en France en particulier. Et maintenant, on voit apparaître des enseignements d'éthique, d'intégrité scientifique. Et ça, je pense que c'est des choses qui seront importantes à l'avenir. Et donc, on doit avoir pour objectif de comprendre et d'expliquer le monde et ses flammes de la manière la plus élémentaire possible. Ça ne veut pas forcément dire la plus simple. Donc c'est essayer de produire une théorie qui réponde aux observations et qui puisse passer le test de l'expérience. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Moi, je crois que vous venez de dire le mot quand même très important que j'attendais.
Validité de faits observables. Parce que la science doit aussi se préoccuper de ce qui n'est pas visible.
D'accord. Oui, fait observable donc par rapport au sens. Au sens aux cinq sens. On a non, mais effectivement, moi, je vois. Le monde
sensible. Mais
du monde sensible. Ah. Et effectivement, c'est. Alors, je ne suis pas allé si loin dans cette présentation, mais il y a eu effectivement des courants de pensée qui étaient, j'ai perdu les termes associés, mais qui finalement questionnaient le fait que nos sens soient les plus adaptés à percevoir le monde. Et que finalement, peut-être nos sens nous trompent.
L'interrogation débouche forcément sur une intervention philosophique. Et Socrate.
Ah, tout à fait. Et le pourquoi, je le laisse à chacun.
Ça, c'est
pas une opposition. C'est...
Avec le mythe de la caverne.
Oui, c'est ça, effectivement. Alors, on monte vers l'embouchure de la caverne, on voit de plus en plus d'abord des ombres, puis en plus, on voit peut-être un peu l'extérieur. Oui, pardon.
C'était juste vis-à-vis du précédent. Moi, j'aurais rajouté, se rapprochant le plus possible des faits observables et grâce à l'expérimentation.
C'est ça.
Parce que, en fait, l'expérimentation, surtout dans les sciences dites dures, c'est quand même très, très important.
Tout à fait.
De reproduire ce qu'on croit avoir compris en disant j'ai compris, je vais essayer de le faire maintenant moi-même, c'est fondamental.
C'est ça. Tout à fait. Non, effectivement, parce que là, quand on énonce comme ça, finalement, l'explication mythologique ou religieuse peut répondre à cet objectif-là. Seulement, le mythe ou la religion n'est pas confronté à l'expérience. Et donc, encore une fois, chacun, ensuite, fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, avec la question pourquoi. Donc comprendre les phénomènes, en tirer des prévisions justes, des applications fonctionnelles, les résultats sont sans cesse confrontés à la réalité. Donc, cela, je l'ai mise surtout pour cette devise Shadok, avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. Les découvertes scientifiques sont à la base de nombreux développements techniques, les applications ayant de forts impacts sur la société, par exemple le parapluie pour temps sec. Et maintenant, donc les démarches. Donc les démarches, effectivement, au départ, on est parti de nos sens. On est parti de notre perception. Donc on est parti de l'observation. Et on a commencé à dégager des modèles, des théories. On est passé du particulier au général, c'est la démarche inductive. Quand on ne sait pas où on va, il faut y aller le plus vite possible. En fait, on savait pas. On était un peu aveugle. Pas de modèle préconçu, et donc on essayait de percevoir le monde avec nos sens et de dégager le modèle. C'est la mythologie.
mythologie, la philosophie, puis ensuite le modèle construit à partir de l'accumulation d'observations. Et puis au fur et à mesure, on a pu commencer à développer des théories qui ont permis d'élaborer des expériences pour tester les concepts. Et on est passé à la démarche déductive, où là on fait une hypothèse et on élabore un test, on fait une expérience. L'expérience peut être naturelle. Hein. Moi, j'ai des gens qui travaillent avec des montagnes, j'élabore un modèle, et ensuite à partir de ce modèle, j'identifie les tests, et je vais dans la nature et je vais voir si c'est bien comme j'avais imaginé. Je suis dans la démarche déductive. On va du général au particulier, et on fait évoluer notre modèle en fonction des tests, positifs ou négatifs. Et donc là, il y a une notion, et là, ça demande de réfléchir, effectivement. On n'est plus juste dans la perception, ça demande vraiment de réfléchir et d'élaborer des théories. Et là, j'ai lu cette lecture il y a quelques années, hein, c'est Proper 1934, qui a développé toute une idée sur la réfutabilité. Et il a introduit cette notion de, finalement, l'approche scientifique, c'est celle qui est réfutable. C'est l'inverse du vrai. C'est-à-dire que formuler une hypothèse scientifique, il faut la formuler de telle sorte qu'on puisse dire oui ou non. Mais il faut qu'on puisse dire non. Et que si on ne peut pas dire non, si on n'a aucun moyen de tester, on est dans la croix de la matrice. On est dans la croyance. Et ça, je trouve ça, alors c'est très déstabilisant, mais je trouve ça intéressant d'un point de vue de la démarche.
C'est le doute.
C'est le doute, exactement. Et le doute n'est pas rassurant. Mais il fait avancer.
Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question.
Et donc, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Donc, la démarche qu'on a, je pense, à peu près tous dans notre démarche scientifique, c'est identifier un problème à résoudre, faire l'inventaire des connaissances sur la question et le domaine connexe. Donc on lit tout ce qui s'est fait,
et ça prend de plus en plus de travail, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui ont été publiées. Alors c'est marrant, l'autre jour, on était dans une formation avec des collègues en biologie, qui me disaient qu'eux, ils citent les travaux d'il y a 2 ans. Ils sont une vitesse d'évolution des idées qui est telle que, comment ils appellent ça, des références PAPDEF, ça c'est des références des années 70. Alors que bon, en géosciences, nous on est peut-être un petit peu plus lent, mais on fait beaucoup référence encore aux travaux des années 70-60. On a un historique un peu plus large, mais le biologiste, ceux qui travaillent sur le vivant, sont beaucoup plus rapides. Bon, après, on formule des hypothèses de manière simple pour élaborer une stratégie pour les tester. Et puis ensuite, on met en place une méthodologie, définir un protocole expérimental, construire une démonstration. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. Là, c'est une bonne utilisation des statistiques. Et puis après, on communique. Donc ça, c'est le chercheur dans son laboratoire. Une étude scientifique A est corrélée à B avec une probabilité de 0,56 étant donné C en supposant D sous la condition E. Ça passe par le service de communication de l'université. Les scientifiques trouvent un potentiel lien entre A et B sous certaines conditions, entre parenthèses. Ça arrive à l'agence de presse, à l'agence France Presse. A cause B, affirme les scientifiques. Ça arrive maintenant sur Internet. Les scientifiques vont à nouveau nous tuer. Posté par Flora Power, commentaire, non gaz de schiste. Et au journal de TF1, médias, vu sur les blogs, à cause tout B, que font les autorités?
C'est vrai, c'était sur Facebook. Ouais.
Et effectivement, dans notre métier d'enseignant, on se pose de plus en plus cette question. On nous encourage finalement à diminuer le nombre d'enseignants et à dire, bah, vous pouvez vous filmer et vous mettez ce qu'on appelle des MOOC, vous mettez des films sur Internet, ça sera disponible, et nous, l'université, on va vendre ces films. Voilà, c'est ça la façon d'enseigner. Bon, je sais pas, je pense qu'on est ici un exemple vivant, hein, de que l'interaction est essentielle. Si on, bon, c'est pas toujours facile quand on a un fil de 150 personnes, mais même, je pense qu'on y arrive. Alors, on doit effectivement garder ce moment d'échange, et je pense que de plus en plus, notre rôle d'enseignant-chercheur, plus encore que par rapport à l'enseignement du secondaire ou du primaire, je dirais que l'enseignant-chercheur doit enseigner quelque chose de vivant, qui évolue, et donc enseigner le doute, ben on se voit d'avoir ce contact et faire du sens avec la connaissance. Ce n'est pas uniquement transmettre des connaissances. Effectivement, les connaissances, en grand deux clics, on les a maintenant. Par contre, faire du sens avec la connaissance, ça demande une organisation, un questionnement, un doute qui est nécessaire. Alors, je vais maintenant aborder le troisième thème qui est l'évolution des idées sur la dynamique terrestre. Alors, je vois que le temps passe et je ne veux pas non plus être trop long sur cette partie. Donc, je vais passer assez rapidement sur la partie mythologique. Je vais juste garder ici, en fait, les premières observations du ciel, elles vont sans doute à nous, l'humanité, donner l'idée des cycles. Voilà, on a donc une partie de notre mode de raisonnement qui est basée sur l'idée qu'il y a des cycles qui se répètent. Donc les cycles naturels, on les voit dans, par exemple ici, il y a des cycles astronomiques qui sont représentés ici avec des marées qui sont en lien avec l'apparition de la Lune ou pas. Voilà. Bon, je passe assez rapidement là-dessus. Quoique, je ne sais pas, parce qu'après je suis plus géologique, hein, donc on va faire une évolution un petit peu rapide à travers les siècles. On trouve ces idées aussi dans le mythe de la Genèse. Donc ça c'est le deuxième mythe, hein, après le déluge, la naissance du monde, la Genèse. Donc il y a un mélange dans notre façon d'aborder la nature qui d'idées du cycle et d'idées de la naissance, de la Genèse. Et qu'ici, le monde était, pour les Égyptiens, recouvert par l'océan primordial, Noun. Vous voyez ici, il recouvre tout. Atum, le démiurge, crée Chou, l'air, et Tefnout, l'humidité. Chou et Tefnout engendrent Nout, le ciel, et Geb, la terre. Noun, mécontent de cette union, demande à Chou de les séparer. C'est un peu comme Héraclès et Pyrène. Et puis, quelque part, au milieu, il y a une catastrophe. Des parents qui se séparent. Et la catastrophe familiale. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la Terre. Dans la Grèce antique, au début était le chaos, puis la Terre, Gaïa, a donné naissance au ciel, Uranus. Ensemble, ils ont enfanté les titans et les dieux de l'Olympe. Et là, on a le début du raisonnement plus rationnel, avec la distinction des éléments, avec Aristote, la Terre, le feu, l'eau et l'air. Donc il mettait la terre au milieu, l'air, l'eau et la terre, au milieu, l'air au-dessus, le feu, c'est le soleil, et puis la voûte céleste au-dessus. Dans le monde occidental, donc, on a la Bible avec la création de la lumière, du ciel, la séparation de la terre et des eaux, création des astres, des animaux et d'Adam. On trouve la même chose avec des variantes, hein, mais chez les Scandinaves, avec le monde des hommes, le monde des dieux qui sont plutôt dans les hauteurs, les elfes noirs qui sont à l'intérieur, les morts qui sont vraiment au centre de la terre, le pays de la glace, le pays du feu, le pays des géants et l'océan. Voilà, donc on a les cycles et le mythe du déluge. Celle-ci aurait dû venir peut-être un petit peu avant. Et donc entre la Grèce antique et puis la Renaissance, il y a une période un petit peu, donc là c'est que je parle pour le monde occidental, une période où la pensée a été dominée essentiellement par la religion. Et ici on a ce tableau de Raphaël, donc le début de la Renaissance, l'école d'Athènes, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc on regarde un petit peu sa situation. En fait, c'est dans ce tableau, on a un petit peu la transition entre le monde de la philosophie grecque, avec des personnages, Aristote, Platon, Ptolémée, ici, qui sont mélangés avec des personnages de la Renaissance, Michel-Ange. Et ici, il y en a un qui est intéressant, c'est Pythagore. Alors, Pythagore, il est en train de prendre des notes dans son livre, et derrière, il y en a un autre, Averroès. Qu'est-ce qu'il fait, Averroès? Il regarde par-dessus l'épaule. Ça, j'adore le présenter aux étudiants. Alors Averroès, c'était un philosophe arabo-andalou du XIIe siècle. Et pendant cette période de prédominance de la pensée religieuse en Europe, le trait d'union entre la philosophie grecque et la Renaissance, ça a été assuré par le monde qui vous est revenu par l'Espagne, à peu près à cette période. Et Hervé Rouès, qu'est-ce qu'il fait? Il copie. Il est en train de pomper. Comme quoi, c'est pas toujours néfaste. C'est pas toujours répréhensible. Et effectivement, une bonne partie de la connaissance des Grecs nous a été transmise donc via la Renaissance, au moment de la Renaissance, par le biais du monde arabe qui a quelque part recopié une partie de ses travaux, les a augmentés bien sûr dans en médecine, en mathématiques, en astronomie. Et donc là, on a pu commencer à partir de la Renaissance à développer une nouvelle pensée plus rationnelle, avec Descartes. Descartes qui décrit un monde qui ressemble à celui de, finalement, d'Aristote, avec une Terre faite de corps obscurs, tout comme les planètes et les comètes, le Soleil et les étoiles faits de corps lumineux, et les cieux de corps transparents. Donc un feu interne. Alors imaginez, lui, qu'il y avait un feu interne. Alors ça, on peut peut-être imaginer à quoi ça fait référence. On l'a évoqué tout à l'heure. Le volcan, hein, le magma qui vient de l'intérieur, le feu interne. Puis ensuite, il met une croûte interne solide et pesante, faite de métaux. Donc il commençait à avoir un petit peu, il y avait des gens qui exploitaient les ressources minérales. Puis ensuite, une croûte externe, faite de pierre, d'argile, de sable et de limon, on en avait bien dessus dans notre région. Et en fait, l'idée, c'est qu'entre les ces deux croûtes, il y avait de l'eau. Et là, on fait référence aux nappes phréatiques, je pense, hein, aux karstes. Quand on va dans faire de la spéléologie, on rencontre assez rapidement de l'eau. Il suffit aussi de creuser dans nos jardins. En quelques mètres, on arrive à de l'eau. Donc tout ça est ancré dans l'observation. Et cette eau, elle va finalement... Donc il y a aussi de l'air, parce que quand on va dans ces grottes, on voit d'abord de l'air, mais de l'air aussi qui entoure la Terre. Et là, on a les premières explications de formation des océans et des montagnes, avec ici cette croûte externe qui va s'effondrer dans la couche d'eau, et l'eau va pouvoir ressortir, former des océans. C'est remarquable. Aujourd'hui, il faut pas... Bien sûr, c'est pas ça qu'on enseigne à l'université, mais on a ici une explication de la formation des océans et des continents à partir d'une Terre qui était en couche, et ces couches se sont effondrées pour laisser passer l'eau qui va former les océans. On retrouve cette idée d'expulsion de l'eau au moment du déluge, avec aussi cette idée d'une couche d'eau sur laquelle flotterait la croûte qui va s'effondrer et laisser se former de l'océan, et puis des montagnes en bordure des océans. Alors cette idée, de l'eau qui constituerait une couche à l'intérieur de la Terre, elle a été quand même un petit peu contredite par... en contradiction avec l'idée qu'en dessous ça serait du magma. Et donc quand il va y avoir des failles, est-ce que c'est du magma ou l'eau qui va sortir? Donc là on a un petit peu une contradiction et une difficulté. Et puis surtout on commence à avoir une image de l'intérieur de la Terre où on se rend compte avec les mesures du champ de pesanteur que la Terre est solide. Et cette couche d'eau, si elle existe, elle est très, très peu épaisse. Ça c'est Buffon. Buffon donc qui s'appuie sur les premières mesures du champ de pesanteur pour dire que la Terre est pleine d'une matière dense. Ça forme les ronds. Ah, tiens, pourquoi? Peut-être que c'est lié au fait que la Terre était molle, et sous ce champ de pesanteur, la fraction gravitationnelle, la Terre entièrement fondue aurait pu former comme une goutte. Et donc on a l'idée ici d'une Terre pleine qui est passée par l'état fondu, et au cours de son refroidissement, ça cristallisé, a formé une première croûte qui ensuite, avec la contraction liée à la diminution de densité des roches et de matériaux au moment de refroidissement, vont former des rides pour former des montagnes et laisser passer l'eau à la surface. Voilà, on commence à avoir des idées de cette nature. Puis ensuite, on constate que les côtes de l'Amérique du Sud sont l'image miroir de les côtes de l'Afrique. Et donc, d'où l'idée que ces deux continents étaient assemblés dans des temps très anciens. Comment expliquer que ces continents étaient assemblés et qu'aujourd'hui ils ne sont plus? Là, on a une autre position, que la Terre est en expansion. Comme un ballon sur lequel on aurait dessiné deux points et qu'on gonfle, un ballon de baudruche, et les deux points s'éloigneraient au fur et à mesure que la Terre soit en expansion. Bon, là, de toute évidence, on a des modèles qui sont radicalement contradictoires. On ne peut pas avoir à la fois une Terre qui contracte et une Terre qui est en expansion.
Alors j'hésite un petit peu là. Parce que finalement, là, on a atteint à peu près nos trois quarts d'heure. Hein, et je vois que la tension baisse un petit peu. Et, non ? Bien sûr. Je peux continuer encore un petit peu, mais là, je vais entrer plus dans ce qui est ma matière, hein, c'est-à-dire la formation des chaînes de montagne. Hein. On était dans les prémices. Bon, vous me donnez quoi, encore 5-10 minutes ? Ça va ? Ouais ? Bon, vous me dites, hein, si la fin commence à... Et donc... Là, on était essentiellement quand même sur des concepts. On était sur des concepts qui sont ancrés dans les observations, mais de premier ordre. C'était une façon d'approcher la Terre qui était universelle. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir les premières observations des roches. La géologie est à peu près née dans ces années-là, du 17e, 18e siècle. Avec ici les premières excursions dans les montagnes. Parce qu'avant ça... Les montagnes, c'était le monde des dieux, on n'y allait pas. C'était un endroit qui n'était pas très accueillant. C'est pas un endroit où, comme aujourd'hui, on allait faire du ski ou on allait se promener. Quoi. C'était un endroit inquiétant, ou plutôt on allait risquer sa peau si on allait se promener. Et donc les premiers voyages dans les montagnes, on a en particulier les voyages dans les Alpes, commandités par De Saussure, qui avait lui lancé un concours, avait dit voilà, le premier. Alpiniste de Chamonix qui m'emmènera au sommet du Mont Blanc, ben il aura une grosse récompense. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, et le guide Balma va mener au sommet du Mont Blanc. Et vous voyez, De Saussure, il avait un marteau, une boussole, des appareils de mesure, hein, il est là pour faire des observations. En chemin, il a pu constater que le calcaire, donc ça c'est plutôt au pied des Alpes, le calcaire qu'on trouve plutôt sur les marges des continents, voire un petit peu au niveau de la mer, c'est le fond marin. Ici, le calcaire au pied des Alpes, il est lissé. Et ça, c'est une observation que les Grecs avaient déjà faite, hein, et les explications, bon, il y a eu de multiples. Et en particulier, Voltaire avait dit, bah, pourquoi, comment expliquer ça avec des calcaires avec des coquilles d'huîtres. Ah, peut-être que ce sont des pèlerins qui se sont promenés, ils ont fait un bon pique-nique et puis ils ont balancé leurs huîtres au sommet des montagnes. Et Buffon de le montrer en disant mais pourquoi n'a-t-il pas ajouté que ce sont les singes qui ont transporté les coquilles au sommet des montagnes. Donc voilà, les débats ils étaient aussi assez virulents à cette époque-là. Alors là, je saute un petit peu les étapes, mais on a ensuite, après ces observations du calcaire qui sait, des roches à l'intérieur des Alpes qui forment des plis. L'idée avec ici la très belle synthèse de Argan, une formation des Alpes depuis avec un modèle d'évolution depuis une plaine, un relief très faible, hein, des mises en place de nappes qui progressivement vont arriver à la surface de la Terre, puis se plisser et se déformer en lien, vous voyez ici, avec le passage d'une plaque en dessous de l'autre. Et ces observations, ces propositions, confrontées aux expériences, ici Henry Cadell, avec un petit peu d'argile et puis de sable, et une presse, donc qui a comprimé du sable et de l'argile, et a reproduit les mêmes structures observées dans les Alpes. Avec ici, oui, j'adore cette cible avec la satisfaction du travail accompli. Et on en déduit ici, les montagnes se soulèvent en réponse à la collision des continents. On a dans le même temps que s'est développée la géologie, donc de façon alors, assez séparée, développé l'investigation de l'intérieur de la Terre. Et ça, c'est essentiellement grâce à la propagation des ondes sismiques et à la mesure des vibrations de la Terre en lien avec la propagation de ces ondes, créées en général par les séismes. Alors depuis maintenant, on fait des ondes artificielles, nous-mêmes, avec des explosifs, mais dans les premiers temps, on s'appuyait sur les séismes naturels. Et donc là, on voit se dessiner une Terre avec des couches concentriques, un noyau, un manteau, alors, un noyau fait de nickel et de fer, ça aussi c'est une découverte intéressante, une histoire intéressante, je ne vais pas raconter aujourd'hui comment on est arrivé à cette conclusion. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, jamais personne n'est allé au centre de la Terre, à part Jules Verne dans ses écrits. Donc, est-ce que vous avez une idée de la roche qu'on peut tenir dans notre main, ici à la surface de la Terre, de quelle profondeur
la profondeur maximum d'une roche qui a été extraite de l'intérieur de la Terre. Alors d'abord avec nos petites mains, un ordre de grandeur. Alors, peut-être un premier ordre de grandeur, mais ici ce sont des milliers de kilomètres. Le rayon terrestre, c'est 6400 km. L'échantillon qu'on est allé chercher le plus profond, il est à peu près de 10 km. 10 km, c'est un sondage qu'ont fait les soviétiques dans la péninsule de Kola. C'était en pleine guerre froide. Les Américains, c'était ceux qui voulaient aller le plus loin possible sur la Lune. Et puis les Russes, c'était ceux qui voulaient aller le plus profond possible. Ils sont arrêtés à 10 km et le forage s'est arrêté en 86. C'est pas un hasard. Ils ont arrêté de creuser. Ils auraient pu continuer un petit peu, mais. Donc 10 km, c'est que dalle. C'est vraiment très très bon. Donc on a à peine gratté la surface. Après, avec les volcans, on a des magmas qui nous ramènent des roches. On va jusqu'à 200 à 300 km. On connaît la composition pour sûr pour avoir un échantillon en main de à peu près cette profondeur. Tout le reste, c'est du concept.
On aura peut-être l'occasion de vous raconter cette histoire une autre fois, mais pas pour cette fois-ci. Et donc, on peut à peu près imaginer la nature des roches qui forment la croûte continentale, qui est appelée le sial des silicates d'alumine, et la croûte océanique, qui était plutôt des. Voilà, en fait, pas la croûte, mais le manteau, qui est fait de cima, des silicates de magnésium. Donc, ça, c'est la géophysique qui nous le dit. Alors, je passe là-dessus. Oui, on. Donc, effectivement. Début XXe siècle, on a à peu près cette connaissance de l'intérieur de la Terre. On a identifié qu'il y a des continents qui ont une latitude moyenne de 800 mètres et qui sont radicalement différents des océans, hein, qui ont une altitude moyenne de moins 4 km. Et donc ça, on peut le confronter à la nature des échantillons qu'on peut récupérer à la surface de la croûte océanique et de la croûte continentale, et puis aussi à ce qui... le matériau qu'on peut déduire à partir de la propagation des ondes sismiques. Et ça, ça a servi à établir la théorie de la dérive des continents.
Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose dont vous avez tous entendu parler. Un météorologue allemand. Alors là aussi, c'est intéressant, c'est un météorologue, c'est pas un géologue ou un géoscientiste, comme on pourrait dire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui venait de l'extérieur, de la communauté. Et alors, peut-être, de toute façon, ce que je le dis à tort, on a proposé ensuite que cette théorie de la dérive des continents, c'était la découverte de la tectonique des plaques, qui est le modèle de la dynamique terrestre qui domine actuellement. Mais avec là, ce n'était pas tout à fait pareil. C'était la dérive des continents. En fait, c'était une théorie de géologue, en fait, basée sur essentiellement les observations sur les continents, qui a pu établir des corrélations entre l'Amérique du Sud et l'Afrique à partir des faciès de roches, des faciès lithologiques, de type de sédiments, de dépôts glaciaires de roches qu'on trouvait de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc on a pu comme ça recoller les pièces du puzzle, il a pu comme ça le faire, à partir de l'analogie. Seulement il avait un problème, c'est que dans son modèle, il proposait que le sial, la croûte continentale, se déplace par rapport au cima. Et les géophysiciens d'époque lui ont dit non, mais le cima, d'après nos ondes sismiques, c'est le matériau le plus résistant de la Terre. Donc il n'y a aucune chance que tes continents puissent se promener comme des bateaux qui se promènent sur un océan. Et donc effectivement, il n'avait pas identifié le bon objet qui se déplace. Le bon objet qui se déplace, c'est la lithosphère, qui a été identifiée à peu près dans les mêmes années. Je passe là-dessus. Et donc il comprend à la fois la croûte continentale ou la croûte océanique, mais aussi ce qu'il y a en dessous, la partie supérieure du manteau supérieur qui est essentiellement rigide et qui peut se déplacer par rapport à l'asténosphère qui est sous-jacente et qui est vite ductile tout en étant solide. C'est-à-dire que c'est le manteau sous-jacent, d'après les ondes sismiques, en fait on sait détecter s'il y a du liquide ou du solide à partir des ondes sismiques. Alors vous essayerez par exemple. Il y a deux types d'ondes. Il y a l'onde sonore qui est l'onde qui comprime le matériau entre nous, par exemple. C'est l'onde de compression qui traverse tous les fluides ou les solides. On peut aussi faire de la compression dans un solide. Si j'envoie un coup comme ça, ça va propager l'onde. Et puis il y a les ondes de cisaillement. Les ondes de cisaillement, bah, là, je peux faire comme ça, je ne déplace pas grand-chose. Donc c'est des ondes qui se propagent en déplaçant de matériaux perpendiculairement à la propagation, la direction de la propagation de l'onde. Et donc, si les ondes de cisaillement ne se propagent pas, on peut en déduire qu'il y a du fluide en profondeur. Donc, on peut détecter les fluides. Or, sur Terre, à part le noyau externe, donc vraiment juste cette partie-là, qui, lui, ne permet pas de propager les ondes de cisaillement, tout le reste de la Terre est solide. Peut-être avec 1% de liquide par-ci par-là, mais vraiment très peu. Donc, l'idée d'un magma sur lequel flotterait la lithosphère, ce n'est pas la bonne idée. Par contre, c'est un solide qui est suffisamment déformable pour qu'à l'échelle de l'année, il y ait des déplacements de l'ordre de 10 à 15 cm par an. Bon, ce qui est mesurable, mais c'est quand même pas énorme. Alors, quand c'est effectivement un séisme, là, ça peut être plusieurs mètres dans la seconde. Mais sinon, moyenné sur les millions d'années, c'est de l'ordre du centimètre par an. Donc là, on a eu, dans les années 30, entre Weigel et puis la tectonique des plaques qui va émerger dans les années 60, là, on a eu effectivement l'identification que l'objet qui peut se déplacer, c'est la lithosphère, et puis une idée ici avec des courants, qui sont des courants de convection. Et là, donc, Holmes, en 1931, a proposé ce modèle en se basant sur, en fait, la découverte de la radioactivité. Et il manquait une source de chaleur pour expliquer que la Terre peut être molle, chaud, en fait, pour expliquer que la Terre était une relativement vieille planète, il manquait une source de chaleur et a été découverte dans les. On a vu Einstein tout à l'heure, au début du XXe siècle. Et en plus, en utilisant la production de chaleur par les intégrations des éléments radioactifs, Holmes a déduit que la température dans le manteau était telle que ce manteau pouvait entrer en convection. Donc, comme une casserole qui est mise sur le feu. Mais à l'état solide. Et donc ces courants de convection pouvaient être le moteur de mouvements de plaques qui surnageraient à la surface de la Terre. Et c'est seulement dans les années 60, en fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a pu tester ce concept, parce que là c'était vraiment un concept, hein, c'était le calcul du nombre de relais, le nombre de l'instabilité qui contrôle l'instabilité convective dans le manteau. Et ce modèle a pu être testé dans les années 60. En fait, il a été testé pendant la guerre. Alors là, malheureusement, c'est l'appliqué qui était au service du fondamental. Alors, on retourne le débat de tout à l'heure, et effectivement, on avait le contrôle de... Alors de quoi? Qu'est-ce qui a été mesuré dans les océans? En fait, on a ici des anomalies du champ magnétique terrestre, avec des zones où le champ magnétique est un petit peu plus fort, des zones où il est un peu plus faible que le champ actuel. Mesuré un peu loin des océans. À votre avis, des bateaux qui se promènent sur l'océan, qu'est-ce qu'ils étaient en train d'essayer de mesurer? En fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train d'essayer de détecter par la mesure du champ? Des sous-marins. Voilà. Et c'est pas étonnant que ce soit un capitaine de la marine américaine qui ait fait cette découverte. En fait, une fois que la guerre a été terminée, elle dit « Bon, j'ai plein de données sur le champ magnétique terrestre, qu'est-ce que je vais en faire ?» Des choses un peu intelligentes au lieu d'essayer de dégommer les sous-marins allemands. Et donc il en a fait les anomalies des fonds océaniques. Et il a pu constater qu'il y avait par rapport à l'axe de la dorsale qui sépare les océans en deux, des anomalies positives, négatives, qui se répètent de façon cyclique. Donc il en a déduit avec en même temps l'observation qu'il y a du magma qui sort à la dorsale océanique, que le magma qui sort, au moment où il va cristalliser, il va se figer à l'intérieur des petits minéraux qui vont s'orienter en fonction du champ magnétique au moment où le magma cristallise. Puis, la dorsale s'écarte, de l'autre magma arrive, et ça recommence. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a des périodes pendant lesquelles il y a des magmas qui ont enregistré des vecteurs magnétiques qui vont vers le haut, et d'autres qui pointent vers le bas. Donc là, on avait vu qu'il y avait des inversions du champ magnétique. Et qu'on pouvait utiliser ces inversions du champ magnétique qui sont réguliers en plus ou moins, en même temps, comme des marqueurs de l'ouverture des océans. Et en datant ces anomalies, d'abord de façon relative, puis ensuite de façon absolue, avec les méthodes de radiochronologie, on a pu reconstruire l'ouverture des océans. Et aujourd'hui, on a ces cartes, avec en orange les océans qui sont les plus jeunes, situés à la pointe des dorsales, qui sont représentés ici en noir. Puis au fur et à mesure, les couleurs jaune, vert, bleu, qui correspondent à des océans. Pluvier. Et la croûte acidique à Pluvier, c'est de l'ordre de 200 millions d'années, au Jurassique. Vous voyez, sans doute quelque chose qui va changer. Là, je fais de la prévision sur les prochaines années, les prochaines peut-être dizaines d'années. Il n'y a que les fonds des océans. Je ne vous ai pas mis la carte de ce qu'on connaît, ce qu'on a échantillonné du fond des océans, mais c'est quelques milliers de points où on a des roches qui ont été échantillonnées. Donc on a une connaissance des océans qui est très très parcellaire. Donc cette image-là, je pense qu'elle reflète surtout notre ignorance. C'est une image très simple qui reflète un modèle très simple, celui de l'ouverture des océans le long des dorsales. Et c'est un raisonnement binaire. C'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. Il suffit qu'on se rate dans un plus et on a raté. Ça fait l'effet de cascade. Donc je pense que cette image-là va changer. Voilà, ensuite, on a donc le pendant des zones d'ouverture, on a les zones de fermeture, et là on a le volcanisme avec tout le pourtour du Pacifique, du volcanisme qui est localisé le long des fosses océaniques. Et ça, on a pu repérer que c'était en corrélation avec de l'activité sismique qui est vraiment localisée au même endroit. Lorsqu'on regarde cette activité sismique en profondeur, on se rend compte, alors ça c'est les coupes qui sont faites à partir de verticale dans la fosse des Mariales. Et là on voit des points de rupture de l'intérieur de la Terre qui vont s'aligner selon des plans qui dessinent en fait un plan de faille et qui délimitent, qu'on a pu ensuite attribuer à une plaque qui passe sous l'autre en profondeur. Et donc là on a pu identifier la subduction. Et on en arrive à la tectonique des plaques, qui stipule aujourd'hui qu'on a à peu près une douzaine de plaques, donc ça c'est les années, fin des années 60. Hein. On a un Français dans le lot, là, le Pichon, qui lui était un peu à la cour, il était un peu derrière Morgan et Isaacs, qui d'ailleurs, il faisait sa thèse, hein, et pendant les trois premières années de sa thèse, il était résolument contre le mouvement de la lithosphère, et puis il s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs, il a rapidement rendu ses calculs. Et il est arrivé à proposer ce premier modèle, où on a des plaques qui sont séparées par des limites en divergence des dorsales, des limites en convergence des fosses, là où les plaques s'enfoncent, et un modèle complet du mouvement des plaques. Et donc cette lithosphère, elle est constituée de la croûte plus du manteau lithosphérique, subdivisée en une douzaine de plaques qui se déplacent par rapport à la sénosphère. Alors l'histoire qui reste à raconter, c'est celle des chaînes de montagne. Et ici, dans cette théorie de l'étude des plaques, c'est effectivement l'image miroir de Wegener. Wegener s'était basé sur les observations du continent. La tectonique des plaques est appuyée sur les observations dans les océans, faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les chaînes de montagne, on voit ici les Alpes, la chaîne Himalaya, qu'est-ce que c'est? C'est Complex Series of Arc-like Zones, je pense que c'est trop difficile de le dire. Complex Series of Arc-like Zones. C'est complexe, en fait, en gros, ça ne rentre pas dans notre modèle, c'est pas pour nous, c'est la question des géologues. Ça, c'est quoi ce qu'on cherche de nous. Donc la tectonique des plaques n'a pas raconté l'histoire des chaînes de montagne. Alors, juste une petite diapo rigolote pour voir le lien entre tectonique et politique. Ça, c'est la carte qui est toujours disponible sur le site de USGS, du Geological Survey américain. Alors, il y a une limite de plaque qui est très étonnante. C'est ici, là. L'Amérique du Nord, finalement, ça comprend la Sibérie et une bonne partie de l'Asie, de l'Est de l'Asie. On n'est pas en pleine guerre froide, mais presque. Alors, si je vous remets deux diapos en arrière, si vous avez suivi le raisonnement, une limite de plaque, ça doit être une zone de volcanisme et d'activité sismique. Pas grand-chose. À la limite, si j'avais une limite de plaque à mèche, je mettrais plutôt séparer l'Alaska et mettre dans la plaque eurasienne. Notre Alaska en Russie, on va essayer de proposer ça aux Américains. Voilà la tectonique et la politique vue par les Américains. Et aujourd'hui, ne vous y trompez pas, c'est un enjeu. Avec la fonte des calottes glaciaires, c'est des régions ici, vous voyez, c'était même pas représenté sur les cartes. Là, les cartes commencent à représenter ces régions, même les cartes géographiques, les cartes géologiques aussi. Donc là, le pôle, c'était tout juste bon à planter un drapeau et pour dire on est allé les premiers, mais aujourd'hui, c'est un enjeu. Un enjeu en termes de transport et puis en termes de ressources. Donc, la géologie va avoir un rôle à jouer là.
Alors, je vais terminer avec cette diapo, qui est la formation des montagnes telle qu'on la voit aujourd'hui, qui est en lien avec la tectonique des plaques, qui est essentiellement associée à des apports de magma en lien avec la fusion du manteau qui serait hydratée par les plaques plongeantes, par l'eau qui vient des sédiments qui ont été entraînés depuis l'océan jusqu'au profondeur. Donc ça va permettre de faire fondre le manteau, générer des magmas qui va permettre d'épaissir la côte. Et ça fait du relief. Et puis aussi, des zones où des morceaux de continents qui auront été formés par un magmatisme vont se rentrer dedans, et ça c'est la collision continentale, ça va aussi former les reliefs, et actuellement les reliefs les plus hauts, c'est ceux qui sont formés de cette manière-là. Et actuellement, le paradigme, il dit, voilà, il y a des montagnes jeunes, par exemple ici, les Alpes, avec la massive des écrins, qui sont avec des sommets très pointus, et puis des vallées très profondes, qui sont entaillées par les glaciers, et ensuite par les cours d'eau. Et c'est constitué d'une matière peu dense, qui va former le relief et surnager sur le manteau sous-jacent. Et puis au fur et à mesure de cette érosion par les glaciers et les rivières, on va aboutir à des montagnes vieilles, qui sont toutes aplanies, comme le socle de Madagascar. Et ça, c'est en lien avec le processus d'érosion qui va s'appliquer au relief, et puis au fur et à mesure que le relief est raboté, la racine de la chaîne de montagne remonte jusqu'à ce qu'elle retrouve un état d'équilibre, que l'iceberg soit complètement résorbé. Et donc je vais terminer avec cette diapositive qui est que là on est passé très rapidement à travers les siècles et puis donc au cours du dernier siècle de la tectonique des plaques et pour faire la transition avec la troisième étape de notre soirée, je vous proposerai éventuellement à une autre occasion de passer de la tectonique des plaques à la tectonique du camembert. Et c'est pas une boutade. Mais je vous laisse avec cette interrogation.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait quelques questions après cette présentation? Oui.
Non, c'était juste les axes de prolongement de ces études actuelles.
Le camembert. Non, mais j'ai fait une partie de ma carrière là-dessus.
Sur le camembert?
Sur le camembert. Alors, le camembert, effectivement, quand on. Bon, je vous dévoile un petit peu le.
Oui.
Mais je serais ravi de revenir d'ici un an ou deux, si ça vous intéresse, pour vous parler de ça. Donc, l'idée au départ, c'est bon, quand on parle de chaîne de montagne et de racines de chaîne de montagne, on a plutôt une image d'assez rude, dure, résistante. Et puis, bon, moi tout petit, c'est-à-dire étudiant de licence, j'ai commencé mon travail dans le Massif Central, et dans le Massif Central, essentiellement, les roches qui sont à la surface de la Terre, c'est les roches qui sont passées par un état partiellement fondu. Ce sont des granites, des nigmatites, on les appelle des nigmatites. Et bon, finalement, je me suis rendu compte, tout jeune, hein, parce que j'étais dans un projet où il y avait des gens qui s'occupaient des roches solides, qui subissaient des déformations à l'état solide, et puis il y a des gens qui s'occupaient des roches magmatiques. Et ces deux types de communautés n'arrivaient pas à discuter entre eux. Et entre les deux, il y avait des nigmatites qui correspondent quand même à, je dirais, 70-75% des roches qui sont à la flore. C'est des roches qui sont passées par un état moitié solide, moitié liquide, que tout le monde délaissait, parce que ça ne rentrait pas dans leur champ de compétences. Et donc, moi, j'ai commencé à me poser la question, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, quand j'ai réalisé les surfaces que ça représentait, et puis ce que ça représentait, en fait, c'est une image de ce qui s'est passé en dessous, dans la racine de la chaîne de montagne, avant de revenir à la surface. Et donc, cette histoire-là, c'est en gros celle du camembert, un peu ramolli. C'est-à-dire que la conclusion à laquelle on peut arriver avec ça, c'est finalement, comme Canel avec son sable et son argile montre que les montagnes se forment lorsque les continents se rapprochent, par épaississement de la croûte, ben cette croûte, une fois ramollie, elle peut fluer sous l'effet de la gravité, sous l'effet de son propre poids. Et donc ça va avoir tendance à contrebalancer l'effet d'épaississement par un réétalement, une redistribution de la matière. Donc ça, c'est un axe, effectivement, de recherche. On change complètement notre façon de voir les racines de chaînes de montagne. Alors, en même temps, il y a aussi des développements méthodologiques, hein, et ça, c'est, bon, j'ai pas du tout évoqué. Là, on a vu l'impact de la géophysique dans les années 50, 60, hein, même avant. Aujourd'hui, on est sur, je pense que les grosses évolutions, c'est être capable d'analyser quasiment à l'échelle atomique. Hein, on fait des analyses de minéraux où on va récupérer, par exemple, pour la datation, de l'uranium, du plomb. L'uranium, c'est un élément radioactif qui va se désintégrer en plomb. Et on peut compter très précisément à l'intérieur des minéraux le nombre d'uranium pair et le nombre de plomb fils, et en faisant le ratio entre les deux, déterminer l'âge du minéral, et donc l'âge de la roche, et donc l'âge du processus qui a donné naissance à la roche. Donc ça, c'est des progrès assez, qui sont actuellement en cours.
Merci beaucoup. Mais nous prenons date pour votre proposition pour la pub en vol. Si vous voulez, nous allons passer à la troisième partie.
Il y a du camembert, hein.
Ah oui, oui.
Moulé à la louche, hein.
Mur. Il y en a au moins trois.
Il y en a au moins trois, oui.
Et tout le monde est convié à participer à ce partage. Merci.
Agent du service public.
Oui.
Donc on en profite.
Avec condition, on a